Chapitre 37. Deux amours extrêmes aux prises. Vers la fin du mois de décembre 1829, à la veille d'installer Esther dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges, le baron pria Du Tillet d'y amener Florine afin de voir si tout était en harmonie avec la fortune de Nucingen, si les mots « un buddy ballet » avaient été réalisés par les artistes chargés de rendre cette volière digne de l'oiseau. Toutes les inventions trouvées par le luxe avant la révolution de 1830 faisaient de cette maison le type du bon goût. Grindot, l'architecte, y avait vu le chef-d'œuvre de son talent de décorateur. L'escalier refait en marbre, les stucs, les étoffes, les dorures sobrement appliquées, les moindres détails comme des grands effets, surpassaient tout ce que le siècle de Louis XV a laissé dans ce genre à Paris. « Voilà mon rêve, ça est la vertu !» dit Florine en souriant. « Et pour qui fais-tu ces dépenses » demanda-t-elle à Nucingen. « Est-ce une vierge qui s'est laissée tomber du ciel ?»« Et d'une femme qui y remonte, » répondit le baron. « Une manière de te poser en Jupiter, » répliqua l'actrice. « Et quand la verra-t-on ?»« Oh, le jour où l'on pendra la crémaillère !» s'écria Du Tillet. « Bas à fin, » dit le baron. Il faudra joliment se brosser, se ficeler, se damasquiner, reprit Florine. Oh, les femmes donneront-elles du mal à leurs couturières et à leurs coiffeurs pour cette soirée-là? Et quand? Je ne suis pas le maître. En voilà une de femme, s'écria Florine. Oh, comme je voudrais la voir! Et moi aussi, répliqua naïvement le baron. Comment, la maison, la femme, les meubles, tout sera neuf? « Même le banquier, » dit Du Tillet, « car mon ami me semble bien jeune. »« Mais il lui faudra, » dit Florine, « retrouver ses 20 ans, au moins pour un instant. » Dans les premiers jours de 1830, tout le monde parlait à Paris de la passion de Nucingen et du luxe effréné de sa maison. Le pauvre baron, affiché, moqué, pris d'une rage facile à concevoir, mit alors dans sa tête un vouloir de financier d'accord avec la furieuse passion qu'il se sentait au cœur. Il désirait, en pendant la crémaillère, pendre aussi l'habit du père noble et toucher le prix de tant de sacrifices. Toujours battu par la torpille, il se résolut à traiter l'affaire de son mariage par correspondance afin d'obtenir d'elle un engagement chirographaire. Les banquiers ne croient qu'aux lettres de change. Donc le Loup-Cervier se leva dans un des premiers jours de cette année, de bonne heure, s'enferma dans son cabinet et se mit à composer la lettre suivante, écrite en bon français, car s'il le prononçait mal, il l'orthographiait très bien. « Chère Esther, fleur de mes pensées et seul bonheur de ma vie, quand je vous ai dit que je vous aimais comme j'aime ma fille, je vous trompais et je me trompais moi-même. » Je voulais seulement vous exprimer ainsi la sainteté de mes sentiments qui ne ressemblent à aucun de ceux que les hommes ont éprouvés, d'abord parce que je suis un vieillard, puis parce que je n'avais jamais aimé. Je vous aime tant que si vous me coûtiez ma fortune, je ne vous en aimerais pas moins. Soyez juste, la plupart des hommes n'auraient pas vu, comme moi, un ange en vous. Je n'ai jamais jeté les yeux sur votre passé. Je vous aime à la fois comme j'aime ma fille Augusta, qui est mon unique enfant, et comme j'aimerais ma femme si ma femme avait pu m'aimer. Si le bonheur est la seule absolution d'un vieillard amoureux, demandez-vous si je ne joue pas un rôle ridicule. J'ai fait de vous la consolation, la joie de mes vieux jours. Vous savez bien que jusqu'à ma mort, vous serez aussi heureuse qu'une femme peut l'être, et vous savez bien aussi qu'après ma mort, vous serez assez riche pour que votre sort fasse envie à bien des femmes. Dans toutes les affaires que je fais depuis que j'ai eu le bonheur de vous parler, votre part se prélève et vous avez un compte dans la maison Nucingen. Dans quelques jours, vous entrerez dans une maison qui, tôt ou tard, sera la vôtre si elle vous plaît. Voyons, y recevrez-vous encore votre père en m'y recevant, ou serai-je enfin heureux ? Pardonnez-moi de vous écrire si nettement, mais quand je suis près de vous, je n'ai plus de courage et je sens trop que vous êtes ma maîtresse. Je n'ai pas l'intention de vous offenser, je veux seulement vous dire combien je souffre et combien il est cruel à mon âge d'attendre quand chaque jour m'ôte des espérances et des plaisirs. La délicatesse de ma conduite est d'ailleurs une garantie de la sincérité de mes intentions. Ai-je jamais agi comme un créancier ? Vous êtes comme une citadelle et je ne suis pas un jeune homme. Vous répondez à mes doléances qu'il s'agit de votre vie et vous me le faites croire quand je vous écoute. Mais ici, je retombe en de noirs chagrins, en des doutes qui nous déshonorent l'un et l'autre. Vous m'avez semblé aussi bonne, aussi candide que belle. Mais vous vous plaisez à détruire mes convictions. Jugez-en. Vous me dites que vous avez une passion dans le cœur, une passion impitoyable, et vous refusez de me confier le nom de celui que vous aimez. Est-ce naturel? Vous avez fait d'un homme assez fort un homme d'une faiblesse inouïe. Voyez où j'en suis arrivé. Je suis obligé de vous demander quel avenir vous réservez à ma passion après 5 mois. Encore faut-il que je sache quel rôle je jouerai à l'inauguration de votre hôtel. L'argent n'est rien pour moi quand il s'agit de vous. Je n'aurai pas la sottise de me faire à vos yeux un mérite de ce mépris. Mais si mon amour est sans borne, ma fortune est limitée et je n'y tiens que pour vous. Eh bien, si, en vous donnant tout ce que je possède, je pouvais, pauvre, obtenir votre affection, j'aimerais mieux être pauvre et aimé de vous que riche et dédaigné. Vous m'avez si fort changé, ma chère Esther, que personne ne me reconnaît plus. J'ai payé 10 000 francs un tableau de Joseph Bridau parce que vous m'avez dit qu'il était homme de talent et méconnu. Enfin, je donne à tous les pauvres que je rencontre 5 francs en votre nom. Eh bien, que demande le pauvre vieillard qui se regarde comme votre débiteur quand vous lui faites l'honneur d'accepter quoi que ce soit? Il ne veut qu'une espérance, et quelle espérance, grand Dieu! N'est-ce pas plutôt la certitude de ne jamais avoir de vous que ce que ma passion en prendra? Mais le feu de mon cœur aidera vos cruelles tromperies. Vous me voyez prêt à subir toutes les conditions que vous mettrez à mon bonheur, à mes rares plaisirs. Mais au moins, dites-moi que le jour où vous prendrez possession de votre maison, vous accepterez le cœur et la servitude de celui qui se dit, pour le reste de ses jours, votre esclave, Frédéric de Nucingen. « Eh, il m'ennuie, ce pot à millions !» s'écria Esther, redevenue courtisane. Elle prit du papier à poulet et écrivit, tant que le papier put la contenir, la célèbre phrase devenue proverbe à la gloire de Scribe, « Prenez mon ours !» Un quart d'heure après, saisie par le remords, Esther écrivit la lettre suivante. « Monsieur le baron, ne faites pas la moindre attention à la lettre que vous avez reçue de moi. J'étais revenue à la folle nature de ma jeunesse. Pardonnez-la donc, monsieur, à une pauvre fille qui doit être une esclave. Je n'ai jamais mieux senti la bassesse de ma condition que depuis le jour où je vous fus livrée. Vous avez payé, je me dois. Il n'y a rien de plus sacré que les dettes de déshonneur. Je n'ai pas le droit de liquider en me jetant dans la Seine. On peut toujours payer une dette en cette affreuse monnaie qui n'est bonne que d'un côté. Vous me trouverez donc à vos ordres. Je veux payer dans une seule nuit toutes les sommes qui sont hypothéquées sur ce fatal moment et j'ai la certitude qu'une heure de moi vaut des millions avec d'autant plus de raison que ce sera la seule, la dernière. Après, je serai quitte et pourrai sortir de la vie. Une honnête femme a des chances de se relever d'une chute. Mais nous autres, nous tombons trop bas. Aussi, ma résolution est-elle si bien prise que je vous prie de garder cette lettre en témoignage de la cause de la mort de celle qui se dit pour un jour « Votre servante, Esther ». Cette lettre partie, Esther eut un regret. 10 minutes après, elle écrivit la troisième lettre que voici. « Pardon, cher baron, c'est encore moi. Je n'ai voulu ni me moquer de vous, ni vous blesser. Je veux seulement vous faire réfléchir sur ce simple raisonnement. Si nous restons ensemble dans les relations de père à fille, vous aurez un plaisir faible mais durable. Si vous exigez l'exécution du contrat, vous me pleurerez. Je ne veux plus vous ennuyer. Le jour que vous aurez choisi le plaisir au lieu du bonheur sera sans lendemain pour moi. Votre fille, Esther. » À la première lettre, le baron entra dans une de ces colères froides qui peuvent tuer les millionnaires. Il se regarda dans la glace, il sonna. « Une peine de biais !» cria-t-il à son nouveau valet de chambre. Pendant qu'il prenait le bain de pied, la seconde lettre vint, il la lut et tomba sans connaissance. On porta le millionnaire dans son lit. Quand le financier revint à lui, Madame de Nucingen, assise au pied du lit, lui dit « Cette fille a raison. Pourquoi voulez-vous acheter l'amour? Cela se vend-il au marché? Voyons votre lettre. » Le baron donna les divers brouillons qu'il avait faits. Madame de Nucingen les lut en souriant. La troisième lettre arriva. « C'est une fille étonnante !» s'écria la baronne après avoir lu cette dernière lettre. « Que vers, Montame ?» demanda le baron à sa femme. « Attendre. »« Attendre !» reprit-il. « La nature est impitoyable !»« Tenez, mon cher, dit la baronne, vous avez fini par être excellent pour moi, je vais vous donner un bon conseil. »«
Vous êtes une bonne femme, » dit-il. « Vaide des têtes, je les baille. »
Ce qui vous est arrivé à la réception des lettres de cette fille touche plus une femme que des millions dépensés ou que toutes les lettres, tant belles soient-elles. Tâchez qu'elle la prenne indirectement et vous la posséderez peut-être. Et n'ayez aucun scrupule, elle n'en mourra point, dit-elle en toisant son mari. Madame de Nucingen ignorait entièrement la nature fille.